Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, Ban Ki-moon en visite au Nigeria, condamnation de l'attaque contre les humanitaires à Bambari en RCA, l'envoyé spécial pour les Grands Lacs appelle à renouer la collaboration militaire ONU-RDC pour neutraliser les FDLR et la coordonnatrice spéciale pour le Liban appelle au calme. En dossier, après la Grèce et la Macédoine, les migrants arrivent en Serbie. Enfin, dans Fréquence Santé, le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, poursuit sa visite au Nigeria. Visite entamée dimanche à Abuja, il a rencontré le président Muhammadu Buhari, avec qui il a procédé à un tour d'horizon des questions d'actualité. Devant la presse, il est revenu sur le fléau du terrorisme au nord-est du pays et de Boko Haram, qui détient depuis bientôt 500 jours les dizaines de filles kidnappées à l'école de Chibok. Ban Ki-moon qui a aussi rendu hommage aux 24 personnes qui ont péri le 26 août 2011 dans l'attentat contre le bâtiment des Nations Unies à Abuja. La capitale du Nigeria, où l'on retrouve Vanina Maestrachi, une des porte-paroles du secrétaire général.
Le secrétaire général a en effet un agenda très chargé aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Il a déjà rencontré le président du pays, M. Buhari, avec lequel il a discuté des dossiers du développement durable. Il a aussi parlé de la lutte contre le changement climatique et puis également saluer les élections qui ont mis le président Buhari à la tête du pays. Et ils ont aussi parlé évidemment de la violence dans le nord-est du pays. Le secrétaire général s'est aussi rendu à un centre de santé, Garki 2, et à une école secondaire également dans ce quartier d'Abuja, Garki, où il a parlé à des jeunes filles qui, grâce au FNAP, peuvent maintenant se rendre à l'école. Il a aussi eu des dialogues avec les acteurs de la société civile et aussi avec les gouverneurs des États du Nigeria pour discuter avec eux de la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui devraient être adoptés à New York en septembre.
Afrique toujours, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, condamne fermement les récents affrontements intercommunautaires à Bambari, dans la préfecture de la Waka, qui ont fait de nombreux tués ainsi que des blessés parmi les travailleurs humanitaires venus porter secours aux victimes. Des attaques contre les humanitaires qui sont hélas monnaie courante, comme le confirme Salima Mokranis, chef adjointe du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Bangui.
On est dans un pays dans lequel les humanitaires sont assez fortement touchés par le conflit. On a depuis l'année dernière plus de 272 attaques qui sont référencées et on a 19 collègues humanitaires qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mandat pendant cette même période depuis l'année dernière, janvier de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un pays dans lequel il y a un fort taux, un fort nombre d'attaques directes ou indirectes contre les humanitaires et c'est un pays dans lequel les risques pour pouvoir accéder aux populations sont assez forts.
L'envoyé spécial du secrétaire général pour la paix et la sécurité en RDC, la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, a appelé lundi à un engagement renouvelé pour neutraliser toutes les forces négatives dans la région des Grands Lacs. Lors d'une visite de 3 jours de consultation avec le Rwanda, pays signataire de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la collaboration dans la région, Saïd Djinit a notamment souligné l'importance de la reprise de la coopération militaire entre la MONUSCO et l'armée nationale congolaise pour neutraliser les forces des FDLR ainsi qu'une fois démobilisés, ces ex-combattants soient rapatriés vers le Rwanda. Saïd Djinit.
Il est important que cette coopération militaire reprenne au plus vite entre la RDC et la MONUSCO pour qu'ensemble, ils joignent tous les efforts nécessaires pour l'accélération de la campagne militaire, pour neutraliser définitivement ce groupe des FDLR qui, faut-il le rappeler, est le premier groupe qui sévit dans la région de l'Est de la RDC et qui provoque l'instabilité et la méfiance entre les pays de la région. Mais en même temps, ceux qui se sont rendus, ceux-là, il faut absolument les ramener le plus rapidement possible dans leur pays d'origine, le Rwanda. Il est toujours permis à ceux qui veulent se rendre de le faire. Et pour ceux qui ont des difficultés à revenir dans leur pays d'origine, si cela est prouvé, nous sommes toujours disposés à avoir d'autres solutions, éventuellement vers des pays tiers.
Toujours à propos des FDLR, la mission des Nations Unies en RDC a annoncé samedi qu'elle n'apporterait plus de nourriture aux ex-combattants combattants Hutu, Rwandais des FDLR cantonnés au camp lieutenant-général Bahouma à partir du mois de septembre prochain, faute de fonds. L'annonce a été faite par le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, lors de sa visite dans ce camp où sont cantonnés plus de 700 ex-rebelles des FDLR et leurs dépendants. Pour lui, ces ex-combattants FDLR doivent volontairement retourner dans leur pays, le Rwanda. Martin Kobler.
On ne peut pas laisser les gens ici. J'ai parlé avec les adultes, j'ai parlé avec les adolescents. Ils disent, nous craignons d'être tués au Rwanda. Alors, je les ai offert, comme la dernière fois aussi, de prendre un petit groupe avec moi pour inspecter les camps au Rwanda, les programmes de réinsertion au Rwanda. Et puis, ils peuvent revenir ici pour raconter leur histoire. Alors, ils n'acceptent pas. Je crois qu'ils ont une agenda politique. Je ne suis pas prêt de parler la politique. Pour moi, c'est une question humanitaire. Mais la MONUSCO nourrit tous les camps ici, à Kamina, Kitona, ici à Kisangani, Kanyabayonga et Valongo, et on n'a justement pas d'argent.
Alors que le gouvernement libanais se réunit en session extraordinaire lundi, la coordonnatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Sigrid Kaag, a exhorté dans une déclaration toutes les parties concernées à faire preuve de retenue alors que des manifestations secouent la capitale Beyrouth depuis 3 jours. Ces manifestations résultent d'une défaillance, selon le public, de services de base et du manque de fonctionnement du gouvernement. Les détails avec Tsige Schifferau.
Sigrid Kaag, la coordinatrice de l'ONU au Liban, a souligné l'importance de protéger le droit des citoyens à exprimer leurs demandes et s'est inquiétée de comptes rendus parlant de violence et de destruction de propriétés publiques par certains éléments. Elle a par ailleurs rappelé qu'il était de la responsabilité des autorités de protéger le droit des citoyens qui devraient pouvoir s'exprimer sans crainte. La coordinatrice spéciale a déploré le décès d'un manifestant ainsi que le nombre de blessés et a demandé à faire preuve de retenue. Elle a aussi soutenu les propos du Premier ministre Tamam Salam, faisant la promotion d'un consensus politique et a évoqué la responsabilité des autorités face aux citoyens. Selon elle, le Liban ne peut se permettre ni stagnation, ni une crise politique continue qui affecte l'économie, mais également les services de base. Pour Sigrid Kaag, tout cela pourrait menacer la stabilité et la sécurité du pays.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Après la Grèce et l'ex-république yougoslave de la Macédoine, plus de 7000 migrants sont arrivés en Serbie en une nuit. Ils ont rejoint depuis samedi le sud de la Serbie où les centres d'accueil improvisés ont été à tour débordés. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge évoque une situation intenable qui est désormais considérée comme le pire exode de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à Pierre Kremer, chef du département de la communication du FICR.
La situation s'intensifie. Nos équipes de la Croix-Rouge de Macédoine et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge supportent sur place la réponse à des besoins urgentissimes. Ces personnes sont fatiguées. On fait déjà des centaines, voire des milliers de kilomètres. Elles sont totalement dépourvues de tout moyen de survie pour beaucoup. Et ça suppose une réponse qui soit à la hauteur des enjeux qui ne cessent de s'accroître. On a véritablement affaire à une crise humanitaire dans les Balkans qui suppose une réponse d'ampleur, qui ne soit pas uniquement localisée, mais qui puisse intervenir sur l'ensemble de la route migratoire des Balkans.
Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 7000 migrants et réfugiés sont arrivés en Serbie samedi nuit. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres par rapport à cette situation ?
Alors, ce sont les centres de réception des différents pays avec le HCR qui travaille sur ces questions-là. Donc, sur les chiffres, on leur laissera le bénéfice du comptage. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, l'afflux est massif et notre réponse est surtout orientée sur les besoins humanitaires majeurs.
Est-ce que vos équipes sur place vous ont dit qu'elles prévoient une forte hausse du nombre de migrants et de réfugiés qui vont sûrement emprunter ces routes dans les prochains jours?
On s'attend effectivement à une intensification. On a vu par exemple sur le mois de juillet, rien qu'en Grèce, on en a eu autant voire plus que sur l'année dernière. Donc l'intensification est en cours et il va falloir effectivement s'y préparer. On sent que la pression s'accélère et cet appel à la solidarité doit être à la hauteur des enjeux, en particulier au niveau de l'Union européenne.
Vous lancez un appel à la solidarité, mais est-ce que vous avez reçu aussi des garanties de la part des autorités grecques, de Macédoine et de Serbie qu'elles vont ouvrir leurs frontières pour accueillir ces réfugiés et ces migrants?
Alors on on a vu que le gouvernement de Macédoine et le gouvernement de Serbie facilitent d'une certaine manière le transit, qui suppose effectivement une capacité pour ces personnes de diminuer le stress, parce qu'elles ont pour la plupart attendu des jours, voire des semaines déjà, dans différents points, en particulier en Grèce au tout départ. Et donc effectivement, cette facilitation est sans doute bienvenue pour éviter une montée des tensions, une montée potentiellement des violences intercommunautaires. Effectivement, ce processus est en cours pour l'instant.
Et quel est le profil de ces migrants et de ces réfugiés qui essayent de franchir les frontières européennes?
C'est un profil de personnes qui fuient des persécutions et des violences. On sait que pour beaucoup, ils sont Syriens. On a affaire à des gens qui n'ont d'autre choix que de fuir une situation absolument intenable, qui sont apparemment extrêmement résolus à aller au bout de leur démarche. Et il y a un urgent besoin de protéger leur dignité, quoi qu'il en coûte.
En parlant de protéger leur dignité, dans quelles conditions vivent exactement ces migrants et ces réfugiés, aussi bien en Macédoine qu'en Serbie?
Pour beaucoup, ils sont effectivement laissés en grande partie à eux-mêmes. Le transit parfois est facilité par train ou par bus. C'est-à-dire, la réponse humanitaire qui est aujourd'hui en train de se mettre en place est énorme. C'est-à-dire qu'on doit leur apporter des abris d'urgence, de la nourriture, des soins médicaux, des premiers secours, du soutien psychologique et en grande partie aussi faciliter la réunion avec leurs proches. Certaines familles ont été séparées, il faut pouvoir les réunir et pouvoir assurer un lien avec leur famille d'origine. Donc tout ce travail est absolument nécessaire.
Qu'attendez-vous concrètement des autorités de l'Union européenne par rapport à cet afflux de migrants et de réfugiés dans ces pays?
On attend effectivement que la solidarité s'organise. On n'arrêtera pas le flot de personnes résolues à vouloir fuir des persécutions et des violences. Donc on attend effectivement la réponse à la hauteur des enjeux, que ce soit d'un point de vue soutien, appui à la réponse humanitaire immédiate, mais que cette réponse humanitaire puisse intervenir d'un point de vue plus global en liant les pays d'origine, de transit et de destination.
Fréquence santé. Santé.
Cette semaine, dans Fréquence Santé, nous recevons le docteur Michel Kazatchkine au micro de Tsige Schifera, où l'envoyé spécial des Nations Unies pour le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale revient sur la situation du sida dans cette région. Il fait aussi le point sur les conséquences du conflit en Ukraine, sur l'incidence du sida et notamment à Donbass.
Cette région du monde est en fait la seule région du monde pratiquement où l'épidémie du sida continue de croître. Alors que sur l'ensemble du monde, l'ONU SIDA rapporte une diminution dans les 5 dernières années de 25% des nouvelles infections et de 20% de la mortalité du sida. Dans la même période, en Europe de l'Est et en Asie centrale, le nombre de nouveaux cas de sida a augmenté de plus de 50%.
Quelles sont les raisons pour l'augmentation de la maladie dans cette zone d'Asie centrale et d'Europe de l'Est?
Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que l'épidémie est beaucoup plus récente que les épidémies de sida aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, en Afrique et dans le reste du monde. C'est une épidémie qui a commencé à croître très rapidement au tout début des années 2000. La deuxième raison, c'est que cette épidémie, elle concerne un petit nombre de populations à risque et singulièrement les usagers de drogue par voie intraveineuse qui sont au cœur de l'épidémie dans cette région. On estime qu'il y a 3 500 000 personnes qui s'injectent des drogues dans cette région du monde, en Europe de l'Est et en Asie centrale, et entre 15 et 50% de ces personnes, en moyenne disons 30%, sont infectées par le virus du sida et près de 60% sont infectées par le virus de l'hépatite, deux virus qui se transmettent très facilement lorsqu'on partage une seringue ou du matériel injectable. Et dans cette partie du monde, les usagers de drogue sont très marginalisés. L'usage de drogue est illégal, il est fortement réprimé et la crainte de la police, la crainte de l'incarcération, la crainte de l'arrestation font que les gens se cachent, ils s'injectent dans de mauvaises conditions d'hygiène, font aussi qu'ils craignent de se rendre dans les hôpitaux et dans les services. Beaucoup de ces hôpitaux et de ces services ne sont d'ailleurs pas adaptés à ces populations marginalisées et ils craignent bien sûr qu'ils en soient soit rejetés, soit dénoncés à la police. 90% sont dans la Fédération de Russie et en Ukraine. Dans ces deux pays, plus d'une personne sur 100 est maintenant infectée par le virus du sida.
Vous avez publié dans un récent éditorial du quotidien New York Times votre inquiétude face à la situation sanitaire en Ukraine et particulièrement dans l'est du pays, donc dans la région de Donbass. Quelles sont vos préoccupations?
Le discours du gouvernement ukrainien jusqu'il y a peu de temps était que le Donbass est un territoire ukrainien et que le gouvernement ukrainien y combat des rebelles séparatistes. Mais depuis un peu plus de 3 mois, le discours a changé. Et le gouvernement ukrainien, pour une grande partie du Donbass, appelle cela maintenant un territoire non contrôlé par le gouvernement et occupé à titre temporaire. Le gouvernement n'y envoie plus d'argent, c'est-à-dire ne paye plus les retraites de salaire pour les médecins, de structures et de fonctionnement pour les hôpitaux, ni de médicaments.
Et c'est avec Michel Kazatchkine que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.